Après, la première rencontre, la première requête, que ton nom soit sanctifié, de la prière du Notre Père, eh bien, Jésus, maintenant, nous invite à considérer le règne de celui qui est notre Père. Et c'est Jésus lui-même qui indique à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alors, c'est quatre petits mots. Que ton règne vienne. Alors, qu'est-ce que le règne de Dieu? En fait, le règne de Dieu est associé aux mots comme royaume de Dieu, royaume des cieux. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du lieu, de l'endroit où l'autorité de Dieu est exercée. C'est la sphère où la gouvernance de Dieu est acceptée et respectée. Alors, au commencement, au tout début, eh bien, l'homme a connu la manifestation du royaume de Dieu dans le jardin d'Éden. Éden, avant la chute, était une théocratie. Ça veut dire un lieu où Dieu gouvernait, où l'homme dominait sur les animaux, assujettissait la terre, où l'homme vivait dans une étroite dépendance et relation avec son Créateur. Et Satan va déstabiliser ce royaume en Éden. Le péché est entré dans le monde et cette harmonie, cette unité ont été complètement brisées. Et depuis, en fait, tous les efforts de Dieu à travers l'histoire tendront à restaurer un règne, un royaume qui est perdu et bien plus grand encore, hein, avec des bases parfaites, éternelles et indestructibles. Le péché de l'homme, c'est le rejet de tout règne de Dieu. Et vous savez, ce rejet du règne de Dieu, cette tendance à dire non à Dieu, est inscrite dans notre ADN à chacun. Parce que nous sommes issus d'Adam, et ce péché qu'il a commis, eh bien, a pollué toute cette humanité. Depuis la chute, Babel a été construite pour s'ériger contre le règne de Dieu. La génération de Noé a vécu un règne dans la violence et dans la méchanceté. Alors, Dieu a choisi un homme, Abraham, par qui il va susciter Israël pour en faire son peuple, dans un pays de lait et de miel, où malheureusement régnait une multiplicité de dieux. Les Hébreux devaient en prendre possession et en faire une terre où l'on pourrait voir le règne de Dieu sur terre. Et c'est ce que dit Dieu à Moïse. Vous avez vu, vous-même, ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Je vous ai fait venir vers moi. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu souhaitait vraiment gouverner par l'intermédiaire de Moïse, mais Israël n'a pas écouté. Plus tard, Dieu souhaitait régner par les juges, mais Israël n'a pas voulu. C'était un temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon, le rejet, le refus du règne de Dieu sur eux. Et puis ils ont dit à Samuel, le dernier juge, « Choisis-nous un roi, afin que nous soyons comme toutes les nations, avec à leur tête un chef humain et faillible, préférable au roi divin, trop saint et redoutable. » Ils vinrent à Samuel et lui dirent, « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis-nous sur nous des pour nous juger un roi comme tout dans toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. » Et on voit que le premier roi d'Israël, le roi Saül, a été un roi insoumis à Dieu et impie. Puis Israël a vécu sous le régime de la royauté humaine avec de bons rois, c'est vrai, parfois, mais très souvent de mauvais rois, rejetant la loi de Dieu, rejetant l'amour de leur sauveur, de leur seul vrai souverain. Mais Dieu avait fait une promesse. Il avait fait une promesse à David, un homme selon son cœur, que de sa descendance naîtrait le roi qui rétablirait toutes choses. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, et ton trône sera toujours affermi. » Et les prophètes se sont succédés, et ils ont rappelé la promesse de Dieu. Et les prophètes ont été moqués, harcelés, persécutés, tués, car ils annonçaient la venue d'un royaume bien plus glorieux où régnerait son élu. Et ils ont prophétisé que le roi désigné naîtrait d'une vierge à Bethléem, que ce roi souffrirait pour le pardon des péchés, qu'il établirait un règne universel sur la terre et un règne de paix, et puis dans les nouveaux cieux avec une nouvelle terre. Mais Israël s'est encore entêté. Israël a désobéi, s'est révolté, et finalement ils ont rejeté ce roi unique, et le peuple a été exilé. Un seul en reste l'a accepté. Et dans sa grâce, Dieu est un Dieu de grâce, il a entendu leurs cris et les a ramenés. Et puis le temps de la promesse est arrivé. Elle s'est accomplie par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous trouvons le mot « règne » ou « royaume » dans le Nouveau Testament, dans seulement les Évangiles, mentionné 120 fois. Le règne de Dieu est un sujet absolument capital pour lui. Dès sa naissance, les mages sont venus et ont voulu voir le roi des Juifs. Évidemment, Hérode l'a très mal pris. Dès le début de son ministère, Jean-Baptiste a annoncé que le royaume de Dieu est proche. Et Jésus lui-même l'annoncera dans ses premières prédications. Comme aussi, il était dans cette dynamique, bien sûr, le roi promis, et c'est comme ça, et à cause de cela qu'il a été accusé. Quand il apparut devant Pilate, Pilate a très bien compris que les Juifs rejetaient leur roi. « Ta nation et les principaux sacrificateurs, a-t-il dit, t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Et on plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Le royaume a été offert au peuple de l'Alliance, et beaucoup l'ont rejeté. Pourtant, ce royaume a été prêché. Il a été manifesté avec puissance par des miracles. Ce royaume a été manifesté avec sagesse par des paroles de vérité, avec grâce par l'amour que Jésus a montré aux hommes. Et c'est lui-même qui a annoncé que le royaume de Dieu est proche. Et pourtant, on pourrait dire que c'est peut-être seulement de belles paroles. Quand on voit l'état de ce monde, on peut se dire, mais peut-être nous chrétiens, on est un peu naïfs. On proclame un royaume, que les choses vont vivre, vont se passer dans la paix, dans l'amour. Peut-être que nous chrétiens, on s'est trompés. Peut-être que nous avons été leurrés. Sommes-nous donc ces doux rêveurs qui n'ont pas réellement pris conscience de l'injustice, de la violence, de la corruption de ce monde? On dirait plutôt que ce monde semble dirigé par le prince de ce monde, disposant de tous les royaumes et de leur gloire. Et les interventions de Dieu semble bien peu présente et trop discrète. Comment Jésus a pu-t-il affirmer que le règne était déjà là? Si tous les efforts de Dieu à travers l'histoire tendent à restaurer ce royaume, eh bien, de leur côté, les hommes ont tenté d'instaurer leur propre règne sur cette terre. Staline a dit, les chrétiens promettent un paradis dans le ciel, nous le voulons et le créons sur la terre. Oui. Ah, quel argument, hein? En réalité, j'aime l'idée qu'il y a en l'homme le désir de retrouver cet Éden perdu. Et c'est vrai. Mais il y a un piège. Le piège est de reconstituer cet Éden sans celui qui l'a créé. Aujourd'hui, on nous promet le progrès social, l'humanisme, les nouvelles théories. On parle de faire table rase du passé, le wokisme, cancel culture. On parle d'intelligence artificielle au service de l'humain pour rendre notre terre ce qu'il était au départ, un paradis. Mais malheureusement, l'homme a oublié quelque chose. Il a oublié des choses immuables, comme la présence et la puissance du péché dans ce monde. Je suis toujours surpris de notre manière de recevoir les promesses électorales, génération après génération, et d'être déçu aux prochaines élections, et de courir vers celui qui a de nouvelles promesses. Il y a en nous cet espoir que ça va aller mieux avec lui. Et si c'est pas lui, ben c'est un autre. Et ainsi de suite. Nous oublions la présence du diable qui veut imposer son règne. Alors je ne dis pas que les politiques sont corrompus, tous corrompus. Je dis seulement qu'ils sont obligés d'accepter qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière toute personne pour savoir si les choses se passent bien ou pas. Que nos politiques et que ce monde est dépassé par le mal. Il n'y a qu'à allumer, nos ordinateurs et téléviseurs et écouter ce que les médias nous disent. Le désir d'instaurer le règne, un règne de paix n'est pas nouveau. Vous savez, tous les royaumes et les empires qui existent et se sont succédés ont un seul désir. De créer un règne de paix. Pourquoi? Parce que quand il y a la paix, cela favorise les échanges et la prospérité d'un royaume. Un empire ne cherche pas à faire la guerre, il cherche au contraire à unir et à faire la paix pour ses propres intérêts. Le prophète Daniel avait eu cette vision très claire des empires qui allaient se succéder. Alors lui, il était à l'époque de l'empire assyro-babylonien. Et ce livre de Daniel est très prophétique. Il est absolument extraordinaire. Il a parlé de l'empire assyro-babylonien. Il parlera de l'empire des Perses et des Mèdes, qui n'étaient pas encore présents, de l'empire grec, puis de l'empire romain. Alors la statue de Daniel illustre ces empires. Et voilà ce que nous dit Daniel 2:44, quand Nebuchadnezzar a fait son rêve et qu'il fallait deviner son rêve et l'interpréter. Daniel dit, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il existe donc plusieurs royaumes qui un jour seront tous anéantis par le royaume de Dieu. Ce royaume qui supplante tous les autres, avec quelle stratégie? Sans armes, sans violence. Un royaume dont le roi est venu, doux et humble de cœur. Un royaume où le roi est venu s'abaisser jusqu'à nous, au point de laver les pieds de ceux qui devaient le servir. Le psaume déjà, le psalmiste était inspiré par cette pensée que tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car Il délivrera le pauvre qui crie, le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre. Il sauvera la vie des pauvres. Il rachètera la vie de la fraude et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Et Éphésiens nous dit, ce roi est au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraine, au-dessus de tout nom qui ne peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il mérite véritablement son titre de roi, et même de roi des rois, car il a fait ses preuves en menant le plus grand combat contre le plus grand ennemi, le plus terrifiant, et il en est sorti vainqueur par la résurrection. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous dit Pierre, qui est monté au ciel, il est à droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. C'est une parole vraie et certaine que ce que nous disent les évangiles et les épîtres. Toute tentative humaine est vouée à l'échec. Et dans ta vie, est-ce qu'il y a des tentatives que tu essayes de lancer sans tenir compte de ce roi? Eh bien, je peux te dire une chose, c'est que toutes ces tentatives sont vouées à l'échec si Jésus, le roi, est mis de côté. Alors, comment recevoir ce règne? Le royaume de Dieu reste à l'œuvre. Le reste l'œuvre de Dieu avant tout, et il se présente sous la personne de Jésus. Le royaume de Dieu à son époque était proche, Jésus est venu, et lui-même a dit, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, et croyez en la bonne nouvelle. » Dès lors qu'il commença à prêcher, Jésus dit, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Admettre Jésus comme roi, c'est d'abord passer par la repentance. La repentance, c'est cette tristesse profonde qui existe en nous parce que nous avons blessé le cœur de Dieu par nos péchés et par nos fautes. C'est un sentiment véritablement douloureux. Mais ce sentiment réveille notre conscience. Et c'est la seule vraie préparation à recevoir ce roi dans nos vies. Or, ce sentiment n'est pas une option. Jésus ne dit pas « vous pouvez vous repentir ». Mais Jésus nous dit « repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Et le psalmiste David a compris dans le psaume 51 « Ô Seigneur, ce que je désire devant toi, c'est un cœur brisé, un cœur contrit ». Un cœur qui cherche le pardon de Dieu et qui va laisser agir son action. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, alors repentez-vous. C'est cela la bonne nouvelle. Le royaume est venu, il est à notre portée. Alors Jésus leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte à ce qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il commence là, mon frère, ma sœur, le royaume de Dieu. Là où, d'abord dans le cœur du croyant, Dieu instaure son règne. Il nous a délivrés, dit l'apôtre Paul, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. En t'accordant d'entrer dans le royaume de Dieu, Dieu a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il t'a accordé les bénédictions de ce royaume. Le royaume de Dieu, dira Paul, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La paix, d'abord la justice, parce que nous sommes justifiés devant Dieu. Il nous voit comme si nous n'avons jamais péché. La paix parce que nous sommes réconciliés avec lui par Jésus et la joie parce que même dans les situations d'adversité et de douleur, eh bien notre appartenance au royaume de Dieu nous permet de vivre cela. Si tu cherches ce royaume, si tu cherches son règne, eh bien tu peux le trouver maintenant. Qui cherche, dit Jésus, trouve. J'ouvrirai à celui qui frappe et je donnerai à celui qui demande. Alors, bien sûr, il y aura le retour de Jésus avec ce royaume de Dieu qui sera instauré. Un jour, nous régnerons avec lui. Si nous persévérons, dit l'apôtre, nous régnerons aussi avec lui. Et quand le Christ, votre vie, paraîtra, Paul dit aux Colossiens, alors vous paraîtrez avec lui. Et ce matin, nous l'avons chanté. Alléluia, Jésus vit, honneur au roi vainqueur. Jules Marcel Nicole disait ceci, en attendant de régner avec lui, en attendant ce jour, eh bien nous sommes exposés à 1000 tentations, épreuves, persécutions, batailles et tourments. Et nous pouvons être réconfortés par la pensée que notre maître, ce roi, à qui tout pouvoir a été remis dans les cieux et sur la terre, est avec nous tous les jours au milieu de nos combats. Le royaume des cieux s'est approché. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Jésus nous rappelle, lorsque nous prions le Notre Père en disant que ton règne vienne, il nous rappelle que nous sommes appelés à demander à Dieu que ce règne grandisse là où le Seigneur se trouve. Où se trouve Dieu maintenant? Là, mais il se trouve aussi au milieu de nous, n'est-ce pas? Mais comment, toi, manifestes-tu ce règne dans ta vie? On ne peut laisser le péché continuer à vivre en nous, aux côtés de la présence de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous disons que ton règne vienne, nous disons à Dieu que rien dans ma vie ne vienne faire obstacle à ce règne. C'est Calvin qui disait, « Qui veut le Christ à moitié, le Père tout entier ?» Des fois, on négocie. Un peu moi, un peu Jésus. Hein? Un peu mon règne, un peu le... Voilà, on est très démocratique. Hein? Un peu lui, voilà. Mais si je veux Jésus à moitié, je le perds tout entier. Ce règne se réalise dans une vie où mon désir de régner est mis au second plan. Que ton règne vienne. C'est aussi le témoignage. Hier, Jean-Luc Pierret est passé et il m'a dit que pour les 40 ans d'Ésaïe 55, son désir était de célébrer la fidélité de Dieu, mais pas de rester dans l'église à célébrer. Alors il a dit, j'ai préféré voilà faire des concerts et inviter les gens à entendre la bonne nouvelle. Et puis on a parlé des chrétiens Maranatha. Vous savez ce que c'est un chrétien Maranatha? C'est le chrétien qui gémit et qui se lamente en disant « Seigneur, reviens » pour échapper à ses responsabilités. C'est le chrétien Maranatha. Bien sûr, nous aspirons tous à la venue du Seigneur, mais nous ne sommes pas appelés à rester enfermés pour exprimer ce retour. Mais bien au contraire, nous sommes appelés à propager le règne de Dieu par notre témoignage, qu'il s'étende de proche en proche, qu'il touche les âmes après âmes, qu'il aille jusqu'aux peuples les plus lointains, jusqu'à ce qu'il ait pénétré l'humanité entière. Et ce matin, c'est vrai que on peut bénir Dieu pour les ministères qu'il y a dans l'Église et pour le frère Aaron, qui nous a parlé de ce travail de Dieu ailleurs aussi, comme ici, maintenant. Que ton règne vienne, c'est aussi, mon frère, ma sœur, c'est aussi l'exercice de l'amour fraternel. Pierre nous dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres si vous en avez le courage. Non. Pardon, excusez-moi. Aimez-vous les uns les autres que le dimanche matin. Non. Aimez-vous les uns les autres, quelqu'un m'a fait remarquer cela, ardemment et de tout cœur. On se sent petit, hein? On se sent petit. Où allons-nous déposer toutes nos pensées et toutes nos discussions qui n'ont pas été nourries par l'amour? Où? Amen. À la croix. Où Jésus peut nous laver de cela. C'est cela le règne de Dieu. L'exercice aussi de l'amour fraternel. Que ton règne vienne. Que rien ne fasse obstacle à son règne. Que ce règne puisse se propager à travers chacun de nous, et que nous puissions exercer l'amour fraternel. Et c'est vrai que Jésus nous appelle à désirer de tout cœur le triomphe final de ce règne. Mais la question ici n'est pas s'il va régner. C'est pas cela la question. La question c'est comment règne-t-il réellement dans ta vie et dans ma vie. Lorsque tu affirmes que Jésus est Seigneur, tu affirmes qu'il règne, non ? N'est-ce pas ? Tu dois donc préciser ce que tu fais pour qu'il règne. Avoir la conscience des responsabilités que ça implique, et cela implique aussi un mode de vie qui devrait démontrer en nous que ce roi règne. Que Dieu vous bénisse chacun. Amen.